RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.
La tête, oh, oui. Le but de Wendy Renard, on le disait, elle est dangereuse dans les airs et elle inscrit le deuxième but pour la France face aux champions du monde en titre.
Willy Sagnol.
Allez, 19h03, vous êtes dans la deuxième heure d'ici c'est Willy jusqu'à 20h. Et toujours avec François Pinet et Jean-Louis Tour.
Oui.
Mais on accueille aussi Rio Mavuba et Roland Courbis. Bonsoir messieurs.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Salut les amis. Rio en direct de Bordeaux.
Ouais, par contre Willy, s'il te plaît, parle un peu plus fort parce que là je suis chez Duga et les pièces sont tellement grandes.
C'est vrai.
C'est incroyable.
Il paraît qu'il faut une voiturette de golf pour se déplacer dans les pièces.
Exactement, il m'a fait venir son petit chauffeur et tout,
c'était temps. Mais Rio, t'es pas devant le Stade de France? T'es pas devant le Parc des Princes?
Non, je suis pas devant le Parc des Princes. Je suis resté bloqué à cause de
la tempête, d'accord. Oui.
Exactement.
Messieurs, dans cette deuxième heure de d'ici c'est Willy, on continue notre spécial foot féminin. Donc on sera au Parc des Princes à moins de 2 heures du coup d'envoi de France-Corée. C'est l'événement ce soir, la première Coupe du Monde féminine organisée en France. On poursuivra également à 19h30 notre grande opération lancée dans Team Duga, le Tour des Clubs. Ça se poursuit donc dans ici c'est Willy avec Saint-Etienne. On sera donc avec notre spécialiste maison Edouard G et un confrère du Progrès pour faire le bilan de la saison de Saint-Etienne.
Et la belle saison, c'est
pas exactement, et évoquer la suite, donc l'après Jean-Louis Gasset. Mais on revient tout de suite aux équipes de France et l'équipe de France féminine.
RMC.
Ouais, c'est toujours de la faute des entraîneurs.
Willy contre-attaque.
On va voir si c'est toujours de la faute des entraîneurs ou si c'est toujours grâce aux entraîneurs qu'il y a des succès. Nos équipes de France qui vont donc rythmer votre week-end de foot. Les garçons seront demain à Konya en Turquie pour le match éliminatoire à l'Euro 2020. Et ce soir donc les filles débutent leur Coupe du Monde à 21h face à la Corée. On a l'impression que les deux sélectionneurs se ressemblent, ont des points communs. Didier Deschamps, Corinne Diacre. Alors la question qu'on voulait vous poser ce soir, le sélectionneur est-il l'élément le plus important d'une équipe de France? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre, Willy.
Alors déjà, juste pour dire, non, Corinne Diacre et Didier Deschamps ne sont pas les mêmes.
Oui, oui.
S'il y en a un qui a gagné, l'autre qui n'a pas gagné.
Ah oui, pour ça, d'accord.
Donc ça, bah, c'est ce qui différencie aussi un peu les sélectionneurs. Est-ce que le sélectionneur ou la sélectionneuse est l'élément moteur donc du groupe? Moi, j'aurais tendance à dire que non.
C'est pas le plus important, en tout cas.
Un grand sélectionneur ou une grande sélectionneuse, mais qu'avec des pipes entre leurs mains, eh ben ils n'auront pas forcément des bons résultats. Tu vas pas transformer des chevaux de course en joueurs de foot. Donc il faut aussi avoir des bons joueurs. C'est comme dans les clubs. Si t'as des bons joueurs, t'y arrives plus facilement. Si t'as des moins bons joueurs, ça va être plus difficile. Après, pour moi, le sélectionneur et la sélectionneuse sont là pour faire des choix. Pour faire des choix souvent de groupe, c'est-à-dire que à un moment donné, ils sont plus non plus dans la sélection de talent pur, mais dans la sélection de complémentarité, d'assemblage. Mm-hmm. Parce que quand t'as une équipe nationale, tu peux pas travailler tous les jours au quotidien avec ton public. Tu es obligé. Tu les as, je sais pas combien de jours par an, mais c'est marginal par rapport à un entraîneur de club. Donc tu es obligé de faire des choix qui peuvent aller à l'encontre, on va dire, du talent. Donc c'est, pour moi, le sélectionneur, la sélectionneuse sont ceux qui affinent un petit peu l'effectif et qui va essayer d'en tirer 100%.
Rio, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, moi je pense que c'est pas l'élément moteur, c'est pas ça que je veux dire, mais ça dépend, comme a dit Willy, je le rejoins, ça dépend quand même des joueurs. Si t'as un bon groupe, on a sûrement eu de super sélectionneurs qui ont pas eu le bon groupe, qui s'entendaient bien, etc. Mais après c'est les entraîneurs qui fixent les cadres, qui fixent les caps à suivre, donc ils ont leur importance. Et là, c'est vrai que pour les deux, ils se ressemblent un peu, hein, même si évidemment Corinne Diacre n'a pas encore gagné, et j'espère pour très vite, mais ils sont pas peur de faire des choix forts.
On a vu aussi des sélections avec de très bons joueurs, de gros potentiels qui n'y arrivaient pas aussi, parce qu'ils n'avaient pas le bon sélectionneur. Ce que vous décrivez là, l'alchimie à trouver, l'importance du groupe, c'est pas si facile à faire que ça.
Non mais, oui mais justement, moi j'ai essayé de répondre à ta question, Jean-Louis.
Gentil.
Non mais ta question, c'est est-ce que c'est le plus important?
Ouais,
tu peux pas dire que c'est le plus important, parce que le plus important, c'est justement c'est les joueurs, le sélectionneur, l'adjoint, le kiné, le docteur.
Quand les sélectionneurs maintiennent un niveau de résultat important avec une valse de joueurs importante, c'est quand même que leur travail est bon.
Ah mais on dit pas qu'il sert à rien, sélectionneur Jean-Louis.
Non.
On dit juste que tu es quand même dépendant du talent que avoir. Parfois t'as des trous générationnels dans les sélections. Pourquoi Yogi Löw, il est champion du monde en 2014 et qu'en 2018 il passe complètement au travers? On dit quoi alors?
Bah, parce qu'il n'a pas réussi à se renouveler, il n'a pas réussi à faire les bons choix,
il n'a pas réussi à trancher. Regarde les Allemands, ils ont eu pendant, à la fin des années 2000, donc vers 2009, 2010, il y a quand même eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés au même moment, qui sont arrivés à maturité, pardon, en 2014, et après ils ont eu du mal à se renouveler. Et même s'il a fait des mauvais choix, certes, mais il n'y avait quand même pas un réservoir aussi large qu'il a pu avoir à un moment donné.
Excusez-moi de vous couper, mais nous on a l'exemple avec Raymond Domenech quelque part. Je me rappelle, j'étais au début de sa campagne. On a galéré à se qualifier. Il rappelle les trois autres, donc il y avait Zizou, je crois, Thuram et Makelele. Et tout de suite l'équipe va mieux et on se qualifie et l'équipe va en finale de Coupe du Monde. Donc c'est pour montrer quand même que même le sélectionneur, il dépend énormément de ses joueurs. Donc je sais pas si c'est l'élément le plus important. Ouais.
Coach, qu'est-ce que t'en penses?
Disons que déjà qu'on tombe d'accord avant de voir l'importance du rôle, qu'on tombe d'accord sur une chose où là, j'en ai la certitude, c'est que les deux métiers sont totalement différents. Et que le métier de sélectionneur, je dis pas qu'il est plus facile, mais il est moins difficile que le métier d'entraîneur. Et qu'après une carrière d'entraîneur, tu peux effectivement faire un bon sélectionneur. Mais après une carrière de sélectionneur, donc je pense qu'il faut remettre dans l'ordre, c'est pas là que tu vas devenir entraîneur. Donc il y a pour moi tout qui est différent. L'atmosphère, l'ambiance, les choix. Et donc je vois ce métier comme un métier passionnant, mais moins compliqué que celui d'entraîneur.
Après, quand tu vois Deschamps qui gagne la Coupe du Monde, alors avec des talents, avec un talent exceptionnel comme Mbappé, mais c'est quand même grâce à Deschamps.
Si
la France gagne la Coupe du Monde,
Regarde justement les autres
nations.
François,
Jean-Louis en parlait, mais tu
François,
penses à l'Argentine,
on peut en parler de manière très libérée. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a été d'accord pour dire que par rapport au talent qu'il y a dans cette équipe de France, nous n'avons pas joué au niveau de spectacle ou de
sauf
que on aurait pu
la coupe
faire
du monde, tu les
attention
mais pas parmi les favoris, tu mets l'Espagne où tu te dis il y a plus de talent, il y a plus d'expérience,
mais qui
tu mets l'Allemagne
qui l'a pas mis parmi les favoris,
tu les mets pas dans les premiers chapeaux des favoris. C'est comme pour l'équipe de France de Corinne Diacre, si elle gagne la coupe du monde, ça sera
François
pour partie
qui,
et
François
avant tout grâce
tu
à Corinne Diacre,
la question aux acteurs
que
principaux tu posais les acteurs aux acteurs tu posais la question aux acteurs principaux, que ça soit les entraîneurs, que ça soit des joueurs, tout le monde disait les Français sont quand même dans les 4-5 favoris,
dans le outsider numéro 1, ou alors favori numéro 2, si tu veux. Derrière quand même des équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne.
Non, mais ça c'est une chose.
Si je me rappelle bien, avec précision, l'équipe qui revenait, c'est tout à fait logiquement l'Allemagne, Brésil, Espagne
et la France, avec
la Belgique. Et après,
mais c'est exactement la même chose pour Corinne Diacre. Cette année, c'est-à-dire que Corinne Diacre, avec son équipe de France, où il y a des talents, où il y a des filles qui ont beaucoup gagné en club, c'est pas l'équipe qui concentre le plus de talents, puisqu'il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, et ce sont les deux équipes qui sont sans doute devant l'équipe de France.
Donc on peut dire qu'on est dans les trois.
Si elle réussit à gagner, on pourra dire c'est sa victoire avant tout. C'est la victoire de la sélectionneuse.
Non, c'est la victoire du groupe. C'est la victoire du groupe, François. On peut pas séparer les uns et les autres.
Et en plus, elle a fait des choix forts, puisqu'on parlait des individualités qu'elle a mis de côté. Katoto, qui est la meilleure buteuse.
Elle
a été laissée de côté.
Ouais. Alors, si je comprends bien.
Pour quelqu'un qui est peut-être moins talentueuse.
Si j'arrive à suivre. Et en cas d'échec, ce sera son échec à elle.
Ça dépend ce que François dit comme un échec.
Non, mais si tu dis si elle gagne, c'est sa victoire, si c'est l'échec, c'est
Roland, tu le sais, Roland, avec ton expérience, tu le sais, les défaites, c'est pour les entraîneurs, et quand ça gagne,
mais moi, je pense que c'est un tout. S'il gagne, s'il perd, il perd.
Oui, mais c'est quoi l'échec? Est-ce qu'aller en finale, c'est un échec?
Ça, c'est autre chose.
On a l'exemple à Marseille, Willy. L'année dernière, quand ça se passait bien, on n'entendait jamais parler de Rudy Garcia. Cette année, quand ça a été mal, il s'est fait dézinguer dans tous les sens.
Oui.
Donc on sait très bien que quand ça perd, c'est pour les entraîneurs.
Bah oui, mais souvent. C'est toujours comme ça.
Ouais.
Mais on critique pas ça, de toute façon. Mais sur ce que dit François, tu peux pas dire, est-ce qu'elle est en finale? Donc ça veut dire, si elle perd en finale, c'est un échec. Mais non,
la finale, c'est pas un échec.
Parce que quand tu arrives en finale, c'est une victoire, c'est déjà un succès, bien sûr.
Messieurs, Martial nous rejoint, il a composé le 32-16. Salut Martial, bienvenue dans Ici, c'est Willy.
Salut tout le monde, je suis content d'avoir Monsieur Mavouba, parce que j'ai été champion de France cadet, le premier champion de France cadet avec l'équipe du LOSC, il y a très longtemps, ça, mon ami.
Ah, c'est super.
Ah, tu vois, donc Non, je voulais simplement dire, je voulais réagir par rapport à ce que disait notamment Roland sur l'idée de, c'est peut-être plus facile d'être
moins difficile
sélectionneur que moins difficile. Tu as raison, Roland. Mais moi, je pense que le sélectionneur du club d'une équipe nationale, ça s'appuie sur une infrastructure de long terme. Si t'as pas les infrastructures, si t'as pas des formations de jeunes, si en plus tout ça, et si t'as pas une team autour de toi, effectivement, le sélectionneur est un leader. Très important, et d'ailleurs c'est souvent un taulier qui arrive à faire l'assemblage de tout ça, mais vraiment je pense que tout ça c'est le sélectionneur. Je suis un peu l'équipe du Sénégal actuellement, je trouve ça vachement intéressant ce qui est en train de se passer là-bas, parce que ça s'inscrit dans la durée, ça construit.
Voilà, tu as raison, tu as raison.
Je voulais réagir,
tu vois Martial, il y a une chose qu'il faut dire, et on va aller très vite là-dessus. L'avantage d'un sélectionneur, c'est qu'il sélectionne qui il veut. Donc, tous ses opposants ou les mecs avec qui il est en conflit, il ne les prend pas. Parce que Roland le sait.
Il ne peut pas faire l'entraîneur de club, c'est ça que tu veux dire.
Voilà. Roland le sait, le sait mieux que personne. Attends, excuse-moi Martial. Roland le sait mieux que personne. Ce qui use, ce qui fatigue et ce qui amène souvent, quasiment tout le temps, des problèmes aux entraîneurs dans les clubs, ce sont les joueurs qui sont en désaccord avec toi, mais que tu dois quand même gérer au quotidien. Un sélectionneur ne gère pas un joueur dont il n'a pas envie de gérer. On l'a vu Deschamps avec la Coupe du Monde, il n'a pas pris Benzema parce qu'il ne voulait pas gérer Benzema. Point à la ligne.
Diacre n'a pas pris Katoto.
Ouais, sauf que le sélectionneur, il ne peut pas aller acheter un joueur à l'étranger qui a du talent. Tu parlais tout à l'heure de talent, les talents d'un sélectionneur, ils se construisent dans la durée par une fédération, par tout ça.
Oui, tu veux dire que quand il y a pénurie à un poste, Martial, on peut pas le recruter.
C'est normal. Voilà. Mais on n'a jamais dit le contraire. Tu as raison, Martial.
Le talent des chances, c'est d'avoir trouvé un Pavard, un Hernandez. De les avoir sortis au bon moment.
Bien sûr. D'accord avec vous, c'est le rôle de leader du sélectionneur est vraiment important, parce que je pense qu'à un moment donné, que ce soit, je te parlais d'Ali ou Cissé, ou que ce soit Deschamps aujourd'hui, c'est des mecs qui ont quand même, à un moment donné, fort de tout ça, pris des choix forts à des moments, et ils ont privilégié l'équipe et la structuration d'une équipe à simplement l'amalgame de talents et de vedettes.
Ouais, mais Martial, tu dis Deschamps.
Ils sont vraiment importants en ce
moment. Ouais, mais tu vois Martial, tu dis Deschamps, sa qualité c'est d'être un leader, mais c'était facile d'être leader puisqu'il a les mecs qu'il a pris lui sont redevables. Donc c'était pas la plus grande difficulté de Deschamps d'être leader avec des mecs qu'il avait choisi.
Qui ont eu plus de difficultés justement à se faire respecter, tu le sais très bien, même s'ils sont allés chercher des mecs.
La grande qualité de Deschamps, ça a été de dire je prends ces joueurs-là, je ne prends pas ceux-là et j'assume. Parce qu'on a eu beaucoup de sélectionneurs par le passé, des histoires avec des joueurs, il y en a eu. Et tu voyais toujours les joueurs revenir. Deschamps, lui, on peut lui mettre ça à son crédit. C'est à un moment donné, il a posé ses baloches sur la table et il a dit, lui, j'en veux plus. Qu'on soit d'accord ou pas,
et
c'est ce qu'il a fait.
Je peux me permettre une dernière
bien
chose
sûr,
aussi.
Bien sûr.
Chez toi.
Sérieusement, je pense aussi qu'il y a quelque chose de vachement important. Un sélectionneur, c'est un sélectionneur d'un pays. L'amour du maillot, l'amour du pays, etc. C'est très con à dire. Hein. Mais c'est des choses qui, par rapport à du football où on parle de fric partout, arriver à mettre les gens autour d'un projet commun de nation, etc. Moi, je trouve ça costaud quand même. Et ce serait bien qu'on en reparle un petit peu plus là, en France, qu'on soit un peu fiers de nos machins.
Exactement.
Comme j'espère qu'on va être fiers des filles.
Très bien, Martial. Merci.
Merci à toi.
Salut, Martial.
Salut.
Salut, les gars.
À bientôt sur RMC.
Ciao.
C'est l'heure, messieurs, dans Ici, c'est Willy, de la Minute Courbis.
Pour expliquer que 1-1, ça fait 2-2-2, ça fait 4 depuis 20 ans et ne pas être suivi, il faut vraiment que j'ai affaire à des têtus de Champions League.
Tu sais, coach, que on a tenu promesse hier, dans Team Duga. On avait Didier Quillot, on lui a parlé du calendrier.
Ah bon?
Tu as suivi ça? On lui a dit, là, le placement de la finale de la Coupe de France, c'est un problème.
Oui,
le placement de la finale de la Coupe de la Ligue, c'est un problème. Bah, il nous a dit, bon, la finale de la Coupe de France, c'est vrai qu'on va la remettre après les championnats. En revanche, la Coupe de la Ligue, c'est impossible.
On peut rien faire.
Voilà. Impossible.
Ah ben écoute.
Ou la supprimer, mais ça c'est pas pour l'instant.
Il y a déjà une amélioration.
Voilà.
Dans ce que
c'est
tu m'as dit.
C'est ça.
On va pas être trop gourmand.
Alors, la Minute Courbis, autour du football féminin, est-ce que t'aurais pu, dans ta carrière, entraîner des filles? Tu te serais imaginé?
Bah écoute, il y a une vingtaine d'années de ça, peut-être pas, parce que je croyais pas au football féminin. Je pensais que c'était un sport uniquement pour les hommes. Je voyais pas. Et puis, au fur et à mesure que j'ai vu certaines équipes de clubs, certaines nations, notamment les États-Unis, et après notre équipe de France, j'ai vu aussi.
Mais c'est bien qu'on en reconnaisse ça.
Nettement ça à Montpellier, oui. Lié par Lyon. Je me rappelle le loup qui était pas content parce qu'on lui avait piqué deux joueuses pour et il avait pas pu les retenir. Et que j'ai regardé jouer ces filles-là, ben sincèrement, j'ai eu petit à petit beaucoup de respect, beaucoup de considération et beaucoup d'admiration. Quand je vois ce que font certaines filles, ben je suis désolé, mais des fois je taquinais certaines de mes joueurs, disant, tiens, regardez le match hier là, parce que ce que elle le fait. J'aimerais bien que tu le fasses de temps en temps, tu vois. Donc et là après tu me poses la question, est-ce que j'aurais pu ou est-ce que j'aurais aimé, mais ne serait-ce que par curiosité, je sais pas si j'en aurais été capable d'arriver à diriger donc un vestiaire féminin, mais ça m'aurait bien plu d'essayer et de voir si on est capable en tant que mec de maintenir une ambiance qui doit pas être simple à l'intérieur de vestiaire féminin. Oui, ça m'aurait plu, mais je sais pas si j'en aurais été capable.
Mais attends, c'est pas fini. Ouais, mais si un club de D1 t'appelle.
Non, allez.
Bah, comment on dit?
Je dis que ça aurait pu être possible, mais je parle au passé.
Bah, et si on t'appelle pour l'équipe de France?
Mais non, arrête tes conneries.
Bah, tu es déjà remplacé Corinne Diacre.
Mais non, mais pour après, je sais pas.
Mais par contre, ce que je regarde avec beaucoup d'attention, Corinne Diacre, qui a la particularité, qui est souvent celle-là, d'avoir été coach et maintenant sélectionneur. Et déjà, quand je l'ai vu coach d'un vestiaire masculin...
À Clermont, ouais.
À Clermont, en deuxième division, on est quand même dans le haut niveau, là. Ben, sincèrement, je lui faisais régulièrement... Évidemment, c'est une image. Grand coup de chapeau, parce que au début, je voyais ça comme quelque chose d'impossible. Et ben non, elle s'est débrouillée, même bien débrouillée.
Tu pourrais, toi, Willy, entraîner des filles? Tu te l'imagines?
Je sais pas.
Moi, tu peux dire non.
Non, mais je sais pas, parce que je me pose pas la question.
Ouais.
Je crois qu'il y a... Il y a peut-être un cap psychologique à passer. Peut-être que cette Coupe du Monde peut aider aussi beaucoup de personnes à avoir un peu ce déclic psychologique, c'est-à-dire pouvoir s'imaginer comme chez les hommes que comme chez les femmes. Je sais pas, aujourd'hui ça me semblerait compliqué parce que le foot féminin, comme on dit, il est encore en développement, il y a des gens qui travaillent très bien, il y a des gens qui travaillent dessus depuis de nombreuses années. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un personnage qu'on ne parle jamais dans les médias. Il y a un personnage qu'on n'en parle jamais, mais si le football féminin français, en est là aujourd'hui, bah c'est aussi une personne à féliciter, c'est Brigitte Henriques.
Oui.
Qui est à la fédération depuis des années et des années et des années. Alors parfois c'était contre vents et marées, elle s'est pris des murs, elle s'est pris des claques, hein, mais elle a toujours tenu bon et elle a toujours mis tout son poids dans le développement du foot féminin. Et si aujourd'hui l'équipe de France en est là et si jamais elle est championne du monde, ça sera aussi une personne à qui il faudra donner, qu'on parlait tout à l'heure qui est le plus important, joueuse, sélectionneuse, et ben Brigitte Henriques aura aussi une grande part de responsabilité.
Après, pour revenir sur les entraîneurs, les garçons qui viennent entraîner les filles, faut pas non plus que le foot féminin serve à recaser les entraîneurs qui ont échoué. Non mais là je parle pas d'ici. Attention, hein. Il y a que des entraîneurs brillants ici autour de ce studio. Non, mais faut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que le foot féminin serve uniquement
au
tremplin.
Faut pas que ça aide à recaser. Mais je pense que c'est aussi sans remettre en cause ce qui se fait actuellement avec les entraîneurs qui sont en place. Mais je pense que ça peut être un élément qui peut faire progresser encore le foot féminin. Je pense si ils ont des entraîneurs d'expérience.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de spécificités. Ouais. Au foot masculin ou au foot féminin qui font que, par exemple pour moi, pour mon expérience à moi, il me semblerait difficile actuellement de le faire. Ouais. Par rapport on peut parler de niveau d'intensité, on peut parler de fluidité, il y a encore des spécificités, ouais. Qui pour moi j'aurais du mal et je pense pas que je serais un bon entraîneur aujourd'hui dans le football féminin.
Rio, t'es comment toi avant cette Coupe du Monde féminine là, t'es à bloc ou pas?
Non, je vais pas dire à bloc, mais évidemment, je vais suivre les Bleus et surtout, je vais découvrir parce que, voilà, je vais être honnête, je connais pas vraiment, à part les clubs français dans la D1 féminine, et là, je vais vraiment découvrir et suivre les Bleus à fond. Ouais.
Très bien, c'est dans une heure et demie le début de cette Coupe du Monde féminine. Merci Rio, bonne soirée chez Dugas.
Merci Rio.
Ouais, c'est bon, il y a les petits fours et tout qui arrivent, on est bien.
C'est normal, chez Dugas.
C'est qui, c'est lui qui les a fait ou quoi?
Non, je pense pas, non.
Quand même pas. Allez, salut Rio, bon week-end, coach, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne soirée. On revient dans un instant. Je vous rappelle le dispositif exceptionnel ce soir sur RMC autour de l'équipe de France qui débute sa Coupe du Monde. 21h, le match France-Corée du Sud, l'avant-match dès 20h dans le RMC Football Show. Lionel Charbonnier, Laure Lepailleur pour commenter la rencontre avec Jeannot Rességuier au Parc des Princes. Ce sera comme ça chaque soir de match de l'équipe de France. On revient dans un instant avec ce qu'on appelle depuis le début de la semaine le Dugatour des clubs qui se poursuit même le vendredi dans Ici c'est Willy avec Saint-Etienne au programme ce soir avec des suiveurs du club. Supporters stéphanois, appelez-nous au 32-16.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.
Tu vois pourquoi les Girls ils arriveront et pas les filles, enfin, elles ont les mêmes capacités, elles gagnent.
C'est des plus grandes guerrières que les autres.
C'est pas de la pression, c'est que du positif.
Willy Sagnol.
Allez, 19h30, toujours dans Ici c'est Willy jusqu'à 20h avec Jean-Louis Tour et François Pinet. Exactement ce que nous a dit cette petite fille, pourquoi les filles y arriveraient. Il n'y arriverait pas alors que les garçons ils y sont arrivés.
Spécial foot féminin avec le début de la Coupe du Monde ce soir, 21h France-Corée en intégralité sur RMC, l'avant-match dans le RMC Football Show. On retournera au Parc des Princes tout à l'heure pour l'ambiance qui doit grimper à 1h30 du coup d'envoi de la rencontre. Dans 15 minutes dans Ici c'est Willy, ce sera le buzzer Pinet, François.
On reparlera un petit peu des filles et du foot, j'ai quelques petites infos à vous donner. Et puis aussi, est-ce que à la place de Valdemar Quitta, tu vends le FC Nantes? C'est ce qui se trame en ce moment du côté de Nantes.
Très bien.
On verra ça tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure. 19h30 donc, nouvelle étape du Tour des clubs sur RMC. Oui,
le Tour en Coupe du Monde. Le Dugatour des clubs. Aujourd'hui, Saint-Étienne.
Saint-Etienne dans le Dugatour des clubs donc pour le cinquième épisode. Saint-Etienne va-t-il se remettre du départ de Gasset la saison prochaine? Tous les jours pendant ce mois de juin, que ce soit dans Team Dugas ou dans Ici c'est Willy, on fait le bilan de la saison d'un club précis et on se projette sur l'avenir. Pour parler de Saint-Etienne ce soir, Edouard G est avec nous, notre correspondant dans la région. Salut Edouard.
Salut Jean-Louis, salut Willy.
Salut Edouard.
On est également en direct avec Romain Collange, journaliste au Progrès. Bonsoir Romain.
Salut.
Bonsoir Romain.
Saint-Etienne, quatrième donc cette saison, auteur d'une saison réussie, pleinement réussie, hein, Willy. Plus encore que les espérances du début de saison. Hein.
Oui, plus que réussie.
Ouais.
Puisque quand tu as le septième, huitième budget, que tu finis quatrième, forcément, c'est que tu as réussi ta saison. En plus, je pense qu'il y avait quand même une qualité de jeu certaine. Sur quasiment toute la saison, il y a eu des joueurs comme Casery qui est un peu moins bien fini mais qui avait très bien débuté, Kabé a pris un peu le relais à la fin, il y a eu la renaissance un peu de Mvila qui pour moi a été le meilleur joueur du club sur la saison parce qu'il a été très régulier sur toute la saison. Donc c'était une très belle saison. Après il faut se dire aussi que ça a été une très belle saison, mais on sait aussi que le club a vécu un petit peu au-dessus de ses moyens pendant cette dernière année et demie et que aujourd'hui la pérennité du club est pas assurée. Donc on sait aussi que voilà, très belle saison mais les difficultés risquent d'arriver rapidement.
C'est quoi la situation financière du club, Edouard?
La situation financière du club, tout s'est bien passé au niveau de la DNCG, c'était mardi dernier, aucun voyant allumé, donc tout est vert, ça tombe bien pour Saint-Etienne. Après, c'est vrai qu'il y a cette donnée que Willy tu en parlais, cette donnée des emprunts de lignes de crédit de 10 et de 15 millions faites au mois de janvier 2018, hein, pour sauver la maison Saint-Etienne à ce moment-là, parce qu'on se rappelle, hein, Saint-Etienne était 16e ou 17e et il fallait faire des recrutements. C'est là que sont venus Yann Mvila, Subotic ou encore Mathieu Debuchy. Et puis pour pérenniser tout ça à la fin de l'année, il y a eu des contrats de signés parce que c'était pour la plupart des contrats à très courte durée, mais par exemple pour Yann Mvila, ça a été une prolongation de contrat. Et puis pour aussi aussi pour Mathieu Debuchy, puis il y a eu des transferts l'année dernière. Bref, ouais, comme tu le disais, Willy, c'est au niveau financier, c'est je dis pas que c'est fragile parce que tout va bien au niveau de la DNCG, donc il y a pas de voyants allumés, mais voilà, il y a ces emprunts qui, alors il faut pas forcément, il y a pas obligation à les rembourser assez rapidement, mais certains disent que éventuellement pour les rembourser, il faudrait vendre un joueur, en l'occurrence William Saliba, mais du côté du club, on m'assure qu'il n'y a pas d'urgence à fermer ces crédits, et pas d'urgence non plus du coup à vendre par exemple le joueur le plus bankable actuellement, ouais. William Saliba.
Ça serait quand même con.
Ouais.
Mais ça serait même un très 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 mauvais signe. Qu'enverrait le club s'il vendait Saliba aujourd'hui?
Alors, il y a volonté de lui de rester, il y a volonté de le club de le garder, il y a volonté pour lui aussi de le rester, parce que c'est franchement un très bon gars qui, à l'ancienne, on va dire, Willy, qui ne veut pas se brûler les
Non, mais c'est très bien.
Et qui veut découvrir la Coupe d'Europe avec son club.
Mais on parlait, tu sais, éventuellement de le vendre et de le garder encore pendant un an, tu vois.
En prêt.
Ouais. Mais c'est jamais bon, ces choses-là.
Ouais.
C'est jamais bon.
Alors, dans le bilan de la saison, bon, le bilan sportif très bon, on l'a dit, hein, il y a eu quand même la fin de saison et dès qu'il y a des cas un peu épineux à gérer, on retrouve la vieille rengaine à Saint-Étienne avec les luttes de pouvoir, la présidence à deux têtes où on n'arrive pas bien à lire ce qui se passe à chaque fois. Romain Collange du Progrès, ça va être ça aussi pour la saison prochaine, les évolutions de la politique sportive à surveiller, que ce soit au poste d'entraîneur ou même à la direction sportive avec le départ de Dominique Rocheteau. Hein.
Oui, c'est ça. Bon, ils ont déjà réglé le cadre de l'entraîneur avec Ghislain Printemps. Roland Romillet nous disait voilà qu'aujourd'hui le poste de directeur sportif c'était pas la priorité pour le moment. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a des tensions. On l'a vu notamment lors de l'annonce du départ de Jean-Louis Gasset. Il y avait Roland Romillet lors de cette conférence de presse, pardon, et il envoyait un missile à Bernard Cayazo, voilà, qui avait lui vendu la mèche sur le départ. Donc il y a ces tensions là et elles sont là, elles ont toujours été là, donc il faut faire avec, le club le sait.
Oui, c'est pas un frein pour le développement du club, ça, pour toi, Willy?
Allez-y, ça fait tellement d'années qu'ils cohabitent.
Oui, mais on se demande comment grandir davantage.
Non, mais aujourd'hui la problématique aujourd'hui, non, mais comment grandir davantage? Comment est-ce que tu grandis dans le football?
Plus de moyens.
Comment ils viennent les moyens? Comment viennent les moyens investis? Soit tu vends le club. Soit tu demandes à des investisseurs d'entrer, mais aujourd'hui tu vas demander à des mecs de venir et de dire allez, vous allez mettre 30 millions parce qu'il nous faut, mais ça, l'argent, mais par contre vous continuerez à pas décider, mais vous déciderez pas.
Je crois pas quand même que dans la gestion, dans la politique sportive, il y a moyen d'améliorer les choses à Saint-Étienne, en rendant les choses plus lisibles, plus efficaces.
Alors dis-moi un club qui s'est développé sans apport financier.
Bah écoute, je
ben non, mais parce que c'est toujours pareil quand j'entends parfois des supporters ou des gens un peu extérieurs au foot ou des journalistes parfois qui font des tribunes, comment développer les clubs de foot sans argent? Ben dites-le.
Lyon, ils ont évolué.
Attends, Lyon, tu oublies quand même. Il y a Cédou, les 100 millions, tu te rappelles, il y a quelques années,
pour acheter
Anderson, tu te rappelles quand les Chinois sont rentrés au capital, c'était encore.
Anderson et ce qui est devenu le club ensuite, il y a eu toute une progression.
Non, mais s'il n'y avait pas eu ces 100 millions à la base, il n'y aurait jamais eu ça. C'était 100 millions de francs pour acheter Sonny Anderson en 2000, en 98, 19. Je sais plus. Mais c'était énorme!
Oui.
T'imagines, c'est énorme. Donc, c'était un transfert de Neymar aujourd'hui.
Ouais. On parlait du centre de formation, Edouard. C'est quand même la force de Saint-Étienne. Il y a toujours des joueurs qui sortent autant.
Oui, alors en fait, c'est la vraie nouveauté. Tu parlais de politique sportive et c'est pas Willy, tu dois avoir un œil là-dessus et tu vas sûrement abonder dans ce que je dis, mais c'est la vraie volonté depuis juillet 2018 de se baser sur le centre de formation, parce que il y a une vraie continuité par rapport à ça. On a vu notamment Razik Neder, hein, qui a pris les jeunes en U13, qui les a montés jusqu'en Gambardella. C'était une logique très intelligente là de faire progresser les joueurs avec le même coach, et finalement on gagne la Gambardella. Alors c'est pas une génération spontanée. Alors il y a des joueurs à fort potentiel qu'on a recrutés à des bons moments, aux bons endroits. Finalement il y a cette coupe Gambardella, et du coup il y a beaucoup de joueurs qui signent des contrats pro, parce qu'on parle beaucoup de William Saliba, mais il y en a beaucoup derrière qu'on va commencer à
On va
s'appuyer sur ces
joueurs-là. J'ai un conseil à donner. Attention quand même à tous ceux qui pensent que il y a une génération qui a gagné la Gambardella, c'est génial, l'avenir est assuré. Attention. On va prendre l'exemple de Bordeaux, par exemple, qui avait gagné la Gambardella. C'était à l'époque des Crivelli-Laborde. Donc, il y avait toute une génération.
Il
y en a que pas mal qui ont joué, mais qui vraiment assument un certain statut et peuvent être bankable après. Il y a Crivelli, il y a Laborde, et c'est quasiment tout. Voilà. Oui, donc, faut faire attention aussi, à se dire, entre la Gambardella et les pros, c'est pas deux étages, trois étages, c'est 40 étages. Oui. Donc, il faut faire attention. Et moi, je dis juste, Saint-Etienne disent oui, on forme toujours des joueurs. Mais dites-moi, sur les 6-7 dernières années, mis à part Kurt Zouma, quel joueur le club a formé qui est super bankable?
Goulam.
T'aimes bien les quiz, hein,
mais c'était un peu à la même époque que Zouma. Goulam. Le petit Nordin, il commence à arriver doucement. Il était prêté, on n'en voulait plus. Qui?
Bamba.
Bamba,
okay. On l'a pas gardé. Une politique sportive d'un club, c'est pas simplement de bien former un joueur. C'est aussi tout ce que tu vas lui proposer. C'est bien former un joueur, c'est lui ouvrir la porte au bon moment, c'est la bonne post-formation, c'est le vendre au bon moment. C'est tout ça une politique sportive. Oui. Et c'est ça qui a pu être défaillant. D'accord. Et qui est encore un petit peu malheureusement.
Pas fait Timmy Gomis.
Oui, là, c'était encore plus longtemps que les autres.
Le droit de le dire quand même.
Romain Collin, puisqu'on se projette sur la saison prochaine, l'autre enjeu, ça va être de savoir si Ghislain Printemps arrive à faire un bon travail dans la continuité de Gasset. Est-ce qu'il y a une inquiétude à Saint-Etienne sur ce sujet?
Alors certains doutent un peu de ses capacités comme numéro 1 qu'il avait eu qu'à Bastia, mais Ghislain Printemps a toutes les clés pour réussir. Voilà, il a fait 18 mois à Saint-Etienne avec Jean-Louis Gasset, il a l'adhésion du vestiaire. Voilà, certains avaient lié Yann Mbila, qui avait lié son avenir à Jean-Louis Gasset, il l'a ensuite lié à Ghislain Printemps. Donc il a tout pour faire du bon travail. Après voilà, il va falloir qu'il trouve aussi sa place, qu'il change peut-être un peu. Voilà, il est très proche des joueurs, donc à voir comment
la bigamie est interdite. Il faut lui rappeler à Mbila.
Non mais Willy, là excuse-moi, si on met Printemps juste pour sa relation avec les joueurs, juste pour garder Mbila, c'est que pour les bonnes raisons.
Moi je dis, je m'y suis déjà exprimé dessus. Je dis c'est une bonne idée d'avoir promu ou je sais pas comment on dit ou validé la piste Printemps. Pourquoi? Vous avez un effectif qui va être quasiment le même l'année prochaine, mais avec beaucoup plus de matchs.
Ouais.
Donc comment tu vas gérer ça? Cette année Saint-Etienne a eu quelques problèmes parfois parce que l'effectif était déjà court. Tu vas rajouter une Coupe d'Europe avec ça. Donc tu vas rajouter des jeunes du centre de formation qui monte. Si t'as un nouvel entraîneur qui arrive aujourd'hui, combien de temps ça va lui prendre pour savoir quel jeune du centre de formation il va pouvoir utiliser? Ça va lui prendre un moment.
C'est du boulot.
C'est du boulot, mais ça prend un temps, ça prend du temps.
Ouais.
Parce qu'un joueur, tu vas le juger sur des entraînements, mais à un moment donné, les entraînements, c'est pas non plus la vérité du match. Le fait d'avoir, pour moi, dans une saison où tu vas avoir un effectif, on va dire un peu juste en termes de quantité.
Oui.
Pour faire beaucoup de matchs, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un mec qui connaît déjà tout le monde. C'est un gain de temps par rapport à un mec qui sera arrivé de l'extérieur.
Un gain d'argent aussi, parce qu'il doit pas être...
Et un gain d'argent, parce que si un mec qui arrive, c'est un nouveau staff, et c'est 7 ou 8 millions qu'il faut balancer.
Je pose ma question favorite, là, j'avais fait la même chose sur Nantes. Romain Collange, quand on est journaliste au Progrès, est-ce qu'il y a souvent des coups de fil, je sais pas, de Roland Romeyer pour se plaindre du traitement de la Saint-Etienne?
Non, ça va. Globalement, ça va.
Il se concentre sur Edouard.
Pardon?
Il se concentre sur Edouard, il peut pas appeler tout le monde.
Ouais, c'est ça. Non, mais globalement, non, on n'a jamais de soucis avec ça. L'entente est plutôt bonne.
Bon, très bien. Merci Romain. Romain Collange, donc du Progrès, l'actu de la Saint-Etienne dans le journal. À bientôt sur RMC. Merci Romain.
Merci Romain. Au revoir.
Et l'actu également sur rmcsport.fr grâce à Edouard G. Edouard, merci.
Allez, à la prochaine.
Bah oui.
Je crois qu'on se retrouve lundi, non?
On se retrouve lundi, bien sûr.
Ouais. Ah, il y a aussi un événement énormissime, non?
Pour Lyon.
Ah,
lundi, c'est le match de l'after.
Non, mais à Lyon, je pense qu'on va parler de Lyon, sans doute.
Oui. Lundi. Oui, et également, bien sûr. Et le match de l'after.
Vous voulez juste garder la surprise, en fait. C'est pour ça que vous voulez pas.
Tu joues pas le match de l'after, Willy?
Non.
plus possible.
C'est hors de question.
Ah bon, très bien.
Puis j'ai passé l'âge de me faire honte, donc.
Le match de l'after, c'est lundi, c'est gratuit, c'est au stade Bauer de Saint-Ouen. Vous pouvez venir pour observer Christophe Dugarry, Ludovico Bragnac et toutes les stars de la Dream Team qui joueront donc soit avec l'équipe Riolo, soit avec l'équipe Rotten. On va se régaler tout au long de la soirée lundi soir.
Eh ouais, faut venir nombreux, venir taper sur la gueule à Dugarry un peu, qui allume tout le monde à longueur de temps. Là, on va le juger un peu là sur ce match là.
Ouais, exactement. Allez les paris RMC, on y va.
Les paris RMC. PMU, que les meilleurs gagnent.
Christophe Payet nous rejoint, notre expert en paris sportif.
Est-ce qu'il a le but de Duga, la cote pour le match de l'after?
Tu vas jouer Christophe non lundi? Alors, non,
tu sais très bien que le lundi soir je ne peux pas jouer au foot.
Ah, tu peux pas jouer le lundi?
Il joue à autre chose.
En ce qui concerne les cotes, effectivement on pourrait y penser sérieusement ce week-end parce que ça peut être très drôle, mais là je vais d'abord vous parler des cotes de France-Corée du Sud pour l'ouverture de la Coupe du Monde féminine ce soir à 21h au Parc des Princes entre la France et la Corée. Alors les Français sont archi favoris. C'est seulement 1,15 la victoire française, le nul à 7 et la victoire de la Corée à 16. Mais il y a peut-être quand même quelques possibilités pour faire grimper ses cotes.
Ah oui.
La Corée du Sud a joué deux fois contre la France, elle a perdu les deux fois et à chaque fois c'était en Coupe du Monde. En 2003, 1-0, en 2015... 3-0. Il veut dire déjà il y a une petite progression en ce qui concerne ces scores-là. Et envisager une victoire avec au moins 2 buts d'écart, ça m'aurait bien arrangé, mais le problème c'est que la cote n'est pas proposée. On nous propose qu'au moins 3 buts d'écart à 2,25. La France avec le clean sheet à 1,42, c'est pas mal non plus, surtout que les Françaises ont gagné 13 de leurs 14 derniers matchs, dont 9 sans prendre de but. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le but de Le Sommer, qui est d'ailleurs la favorite pour être meilleure buteuse à la fin de la compétition. C'est 1,75 si vous allez sur le site de notre partenaire. Mais si vous cherchez un peu la super cote foot,
oui.
Eh bien, la cote a été boostée.
Ah, d'accord.
À 2,25. Le but de Le Sommer à 2,25.
Ah oui,
pour moi,
ça.
C'est cadeau. Il faut y aller. Oui. D'ailleurs, on peut mettre que 20€ maximum. Mais c'est déjà pas mal. Ah ouais.
Très bien.
Et oui. Après, Valérie Gauvin, 1,85, parce que c'est elle qui jouera en pointe. Et Ali Benarbia, Ali donne son prono, pardon, a donné une cote de 4,20. La France gagne. Wendy Renard marque.
Ah, ça c'est pas mal, oui. Elle marque souvent sur corner.
Un corner, un coup de tête.
Willy?
Oui, bah pour moi ça sera au moins 3 buts d'écart et la France ne prendra pas de but non plus, donc ça sera ou 3-0, 4-0, 5-0.
Et on pourra tenter un nul à la mi-temps.
3-0 c'est 5-20,
c'est pas mal. Ouais.
Le 4-0 c'est 8-50, on peut tenter le nul à la mi-temps. Le 2-60.
La tension du match d'ouverture, tout ça, là, la France gagne en deuxième mi-temps.
J'ai quand même l'impression que la Corée du Sud est quand même bien plus faible que la France.
Il y a une différence.
L'important c'est d'être convaincant, tu vois.
Non, c'est dingue,
Jean-Louis.
J'espère que je ferai jamais de jeu avec toi.
Il y a une différence de puissance athlétique qui, surtout à ce niveau-là, chez les femmes, c'est quand même une donnée extrêmement importante.
Un argument.
Il y a une vraie différence quand on disait quand il y a Wendy Renard qui va monter sur les coups de pied arrêtés.
Ça fait
20 cm de plus que toutes les Coréennes.
Bah c'est
donc
bon, vous m'avez convaincu, le but de Wendy Renard, on y va.
C'est en train de le jouer là, tu vois.
Oui, j'y vais.
Mais après, Le Sommer, c'est 20€ max. Mais d'accord. Sur Wendy Renard, tu mets très bien.
Merci Christophe. Et RMC Sport,
merci
de retrouver tous les conseils de la Dream Team.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, on va au parc pour retrouver Jeannot Rességuier pour continuer l'avant-match de France-Corée. Et puis le buzzer piné, bien sûr, à ne pas rater. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.
Le coup franc pour les Bleus, Camille Abili, c'est en roulant.
Ouais, ouais,
c'est Camille Abili, Camille Abili. On l'a fait venir comme ici. Oh oui.
Elle a sorti la botte magique, Camille Abili.
Samba. Willy Sagnol.
Allez, 19h49, vous êtes dans les 10 dernières minutes d'ici c'est Willy sur RMC avec notre buzzer Jean-Louis et je vais vous rappeler au 32-16.
Exactement, et en plus de ça, on va retourner au Parc des Princes puisqu'on est en édition spéciale depuis 18h autour de la Coupe du Monde féminine. Le début de la compétition, c'est dans 1h10 avec France-Corée. au Parc des Princes, on retrouve Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Bonsoir, bienvenue en automne, bienvenue dans le présent. Mais alors, qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui fait frais? C'est dommage pour ce match d'ouverture. Salut Willy, avec un match à guichet fermé. Le stade est en train de se remplir petit à petit, l'ambiance est en train de monter, il pleut mais on arrose la pelouse. C'est un billard, on a vu les joueuses de Corignac venir tout à l'heure reconnaître cette pelouse comme elles l'ont fait hier à la veille de ce match. Les Sud-Coréennes également sont venues. Et puis messieurs, on vient d'avoir la composition de l'équipe avec une surprise de dernière minute, une surprise et à la fois une sanction de la part de Corinne Diacre. Avec Anthony Reich, on est allé à la pêche aux infos. Eh bien, c'est Valérie Gauvin, l'attaquante de cette équipe de l'équipe de France, qui ne sera pas titulaire. Elle est arrivée deux fois en retard à l'entraînement cette semaine. Et donc Corinne Diacre a décidé de la punir. Elle sera sur le banc des remplaçants. Ce qui veut dire que c'est la Parisienne Kadidiatou Diani qui sera titulaire en pointe de l'attaque, avec Eugénie Le Sommer sur le côté gauche et Delphine Cascarino, l'autre lyonnaise de l'attaque de l'équipe de France. Ce sont les trois joueuses qui étaient en attaque déjà début janvier au Havre avec la victoire face aux États-Unis 3-1, qui reste la rencontre la plus aboutie de la préparation de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Pour le reste, Griege Mbok, il y avait un doute par rapport à sa blessure au genou. Elle est bel et bien titulaire et sera en charnière avec Wendy Renard, donc deux autres lyonnaises. Amel Majri sur le côté gauche de la défense pour également une joueuse de l'Olympique Lyonnais, avec Marion Torrent de Montpellier sur le côté droit, le milieu de terrain, avec Henri, la capitaine, avec Gaëtan Tinet, avec Élise Boussaglia et le gardien de but, la gardienne de but, Sarah Bouadi. Donc voilà pour les dernières infos de cette compo d'équipe avec cette décision de la part de Corinne.
Merci Jeannot.
Gros, il avait raison même, finalement, Dugas, hein, Cascarino, et puis hier on disait elle allait être titulaire, mais on s'attendait pas à forcément ce choix.
C'est vrai.
On pensait qu'elle allait être
attention, mais... attention aux sanctions trop rapides.
Le retard.
Ouais, mais Deschamps, c'est là où il a été bon, c'est qu'il y a des mecs qui à un moment donné ont dépassé les bornes, mais les a pas sanctionnés, et surtout pas sportivement.
Match continue après 20h dans le RMC Football Show. Le buzzer piné tout de
suite. Oui, alors avec cette information confirmée par l'AFP du FC Nantes, puisque Valdemar Quitta aurait reçu une offre d'achat à la hauteur de 60 millions d'euros pour le club. L'acheteur, on ne le connaît pas, ce serait un fonds d'investissement pour l'instant identité inconnue représenté par Thierry Braillard. Le processus de vente serait même bien engagé. Valdemar Quitta, qui est arrivé au club en 2007, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Nantes qu'il y ait un acheteur?
Moi, je trouve pas que ce soit une bonne nouvelle quand ce sont des fonds d'investissement. Des propriétaires avec des fonds propres, moi ça me dérange pas. Quand ce sont des fonds d'investissement, moi je suis inquiet, parce qu'un fonds d'investissement, ça regroupe là où on met tous nos assurances vie, donc on veut que ça marche, on veut gagner de l'argent avec nos assurances vie. Ouais. Et ils mettent ça sur un club de foot. Ouais. Donc attention.
Ça doit être une bonne nouvelle pour les supporters nantais quand même, hein, d'entendre ça.
Oui, en fait tu sais toujours ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu gagnes.
Exactement.
Non, mais c'était ça l'info la plus importante. Je mets toujours l'info la plus importante en premier.
Très bien. Il y en a une autre ?
Pas forcément.
Très bien, merci François. Excellent buzzer piné. Alors moi, je rajoute une info. C'est Tanguy Ndombele qui serait le favori.
Je voulais la donner celle-ci.
Oui, très bien. Pour remplacer Kolo Kanté.
Il m'a écouté, Didier.
On dirigeait vers un 4-3-3.
Bon, laisse-moi parler. Du coup, on se dirige vers un 4-3-3. Donc selon nos envoyés spéciaux, donc avec le trio Matuidi, Pogba, Ndombele.
Oui,
donc
voilà. Au milieu, 4-3-3.
Oui.
Je voulais pas vous la donner, mais d'accord. J'avais.
Et ensuite, Griezmann, Mbappé, Giroud, a priori. Voilà. Pour Turquie-France, demain, on aura le temps largement d'en reparler. Tout de suite, donc, c'est l'intégrale Coupe du Monde avec Louis Amar.
Bonsoir à tous. Salut Jean-Louis. Salut Willy. Salut François. L'intégrale Coupe du Monde, le premier de ce printemps qui arrive ce soir pour le match de la Coupe du Monde féminine.
Quelle chance tu as.
France-Corée du Sud, absolument. On va le vivre évidemment en direct en intégralité avec Jeannot Rességuier au Parc des Princes, avec Laure Lepailleur et avec Lionel Charbonnier. Première soirée de ce mondial dont RMC est la radio officielle.
Exactement. Jusqu'à minuit avec l'after pour débriefer ce France-Corée dans la foulée. Willy, bonne soirée.
Salut, bon week-end. Super, il y aura de toute façon une belle soirée aujourd'hui. Oui. Il y en aura une autre demain et le week-end sera exceptionnel.
Exactement, merci Willy, ciao.
Au revoir à tous.